Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast pour mieux comprendre l'écologie. Je m'appelle Antoine Grégo. Je me considère comme un écolo imparfait et je suis, comme beaucoup, sensible aux enjeux de demain. Mais en juin 2020, au moment où j'ai décidé de démarrer le podcast, impossible de savoir par où commencer. Comment en savoir plus sur l'écologie facilement ? Je vous propose donc, dans chaque épisode, de découvrir l'histoire de celles et ceux qui agissent pour un monde plus durable. Entrepreneurs, intrapreneurs, activistes, ils agissent avec passion aux quatre coins du monde. En France, bien sûr, mais sur tous les continents, pour nous permettre d'espérer demain un monde plus durable. Quelles sont leurs solutions ? Pourquoi ont-ils décidé de se lancer ? Quels sont leurs conseils pour agir à notre échelle ? Écouter, lire ou s'éduquer sur ces enjeux, c'est déjà agir pour un monde plus durable, car il nous permet d'en parler avec conviction autour de nous. C'est ce que j'espère vous apporter lors de chaque épisode. Si vous souhaitez soutenir ce mouvement, et si vous aimez le podcast ou l'épisode du jour, n'hésitez pas à taguer Demain est durable sur LinkedIn ou sur Instagram, ou à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Donc aujourd'hui, dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le grand plaisir d'accueillir Vincent Doumézel. Comment tu vas, Vincent ?
Ça va très bien, merci.
Je suis très content de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour pouvoir parler d'un sujet que j'ai pu aborder auparavant, mais de manière un peu succincte, que ce soit on a pu parler notamment un peu d'algues avec Alvin de Algama, je vous mettrai le lien dans la description. On avait pu parler d'algues aussi, de séquestration notamment, avec Pierre Gilbert, notamment sur le géomimétisme. Je vous mettrai également le lien en description d'un épisode plus complet. On parle beaucoup plus que uniquement des algues. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de pouvoir faire un topo global avec toi, qui est l'expert des algues, avec un livre que tu m'as gentiment envoyé, qui s'appelle La Révolution des algues. Je mettrai bien entendu le lien en description. L'objectif, c'est de pouvoir du coup parler des algues, comprendre ce que c'est concrètement, on va en parler juste après, à quel point ça peut nous servir dans l'alimentation, dans l'agriculture, dans la séquestration, parce qu'on va aller plus en profondeur que ce qu'on avait pu faire potentiellement avec Pierre aussi, d'algues vertes, enfin bref, on a tout un champ des possibles aujourd'hui, donc c'est assez génial. Mais avant de démarrer, je te propose de te présenter, Vincent. Donc, qui es-tu ?
Alors, Vincent Doumézel, donc je suis conseiller aux océans au Pacte mondial des Nations Unies, donc qui est une agence de l'ONU.
Ok, très bien. Alors, avant de démarrer, quand est-ce que, sur toi d'abord, quand est-ce que tu entends parler de ce sujet des algues ? Quand est-ce que tu commences à aller comprendre le potentiel de ce type de végétal ?
Bah, en fait, moi j'ai commencé à travailler en Afrique dans ma carrière il y a 25 ans pour le gouvernement français, et là je découvre un peu la vraie vision de la faim dans le monde, en fait ce que ça veut dire vraiment. Et donc toute ma vie, je me dis que je vais essayer de travailler dans l'agroalimentaire pour bâtir quelque chose d'un peu plus durable et d'un peu plus équitable, surtout qui nourrisse plus de monde, de trouver des solutions aux grands problèmes de la faim dans le monde. Et là, plus j'avance, plus je vois qu'il n'y en a pas. Et c'était ça mon premier grand constat. Et donc, je me rends compte, je travaille notamment dans la conformité des grandes chaînes agroalimentaires. Et à travers le monde, je voyage beaucoup. J'ai la chance de voyager dans plus de 140 pays pour travailler à une chaîne de valeur alimentaire plus équitable, plus durable, plus environnementale, etc. Et je me rends compte qu'en fait, on va un peu dans le... Enfin, on a fait des grands progrès, mais que c'est plus suffisant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 300 000 personnes à nourrir tous les jours en plus sur Terre. On a une explosion démographique dont on se rend pas vraiment compte ici. On a 1 milliard de personnes qui meurent de faim. Ça, c'est énorme, hein. C'est quand même quelque chose de phénoménal. Donc, et que avec l'explosion de la demande calorique, puisque les gens ils veulent manger plus de viande, enfin moi pas forcément le cas en France, mais là où la population croît c'est le cas en Asie notamment, ils veulent manger plus de viande, ils veulent manger plus en général, et donc il y a une explosion de demande calorique qui fait que selon les recherches de Varoningen, dans les 50 ans à venir, il faudra qu'on produise autant de nourriture que dans les 10 000 ans passés. Donc ça paraît un peu dément, d'autant plus que bah on a de moins en moins de terres arables puisque ces gens qui apparaissent sur Terre, il faut bien les loger et donc les villes elles grandissent et que depuis un siècle on a été, enfin 50 ans on a été assez efficace au niveau agroalimentaire, c'est vrai, on a produit beaucoup plus, on a permis de réduire très largement la faim dans le monde, mais ça s'est fait au détriment des terres qui sont aujourd'hui épuisées et on voit bien que toutes les grandes céréales aujourd'hui les rendements stagnent ou se réduisent. Donc il faut qu'on arrive à démultiplier de façon absolument incroyable la production, alors que dans le même temps, on a de moins en moins de production possible et de plus en plus de gens sur Terre. Donc ça paraît un peu l'équation impossible à résoudre. C'est ça un peu qui m'inquiète. Et moi, donc je voyage à travers le monde et je me rends compte qu'en Asie, au Japon et en Corée notamment, surtout, on cultive assez largement des algues qu'on mange. Très largement aussi, au Japon, c'est dans 10% des plats, que ça semble contribuer là-bas à des bienfaits santé absolument incroyables, avec ce qui fait des habitants de cette île, alors c'est multifactoriel, mais ceux qui vivent le plus longtemps, ceux qui ont les plus bas taux de cancer, de maladies cardiovasculaires, d'obésité, etc. Que cette ressource, surtout, elle a besoin de rien. Donc, on n'a pas besoin elle n'a pas besoin de terre, elle n'a pas besoin d'être, enfin, de fertilisant, elle n'a pas besoin d'être nourrie, elle s'en va pas en volant ou en nageant. Et en plus, on n'a même pas besoin de l'arroser. Donc, c'est assez sympa. Et donc voilà, je me dis, mais et pourquoi finalement il n'y a qu'une région dans le monde, l'Asie, qui produit aujourd'hui 99,5% de la production d'algues, donc l'essentiel. Pourquoi il y a une seule région qui a appris à faire ça? Et qu'il le fait bien par ailleurs. Aujourd'hui, l'Asie, c'est presque 40 millions de tonnes d'algues cultivées tous les ans. Donc, on n'est pas loin d'une grande filière céréalière en France ou dans un grand pays d'Europe. Et puis, quand on commence à regarder ce point, ben, on se dit finalement, notre planète, on la regarde pas du bon côté. C'est-à-dire que si on se recule un peu, c'est une planète bleue qui est recouverte par des océans. Et que ces océans aujourd'hui, ils couvrent 2/3 de la planète, enfin 71% même, mais ils contribuent à 2% de notre alimentation en calories seulement. Donc il y a cette espèce de décalage énorme entre finalement sur 29% de la planète, on a concentré toute la production agricole, enfin alimentaire, pour complètement négliger le reste, et qu'on est resté des chasseurs-cueilleurs dans l'océan. Encore dans la préhistoire, vraiment, parce que finalement, quand on regarde ce qui caractérise la sortie de la préhistoire, c'est bien l'arrivée dans l'agriculture, il y a 12 000 ans en Mésopotamie et ailleurs, où on passe du chasseur-cueilleur à l'agriculteur. Et ça, on l'a jamais fait dans l'océan. Et donc, cette prise de conscience, elle va arriver là, elle va arriver en 2000, en 2014, ouais, il y a 10 ans à peu près pour moi, 15. En réalisant qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans l'océan et que si on veut réparer les océans surtout, puisqu'ils sont déjà largement victimes de nos activités humaines, bah, il faut commencer par le plus bas niveau trophique. Il faut commencer par le fondement. Et donc, ce fondement, ce sont les algues. La base de la vie dans les océans, c'est le plancton et les algues. Et donc, voilà, les algues étant un peu plus faciles à appréhender que le plancton, qui est beaucoup plus complexe, je commence à m'intéresser très largement aux algues à ce moment-là. Voilà, c'est une longue réponse à une courte question, mais.
Non, non, pas du tout, pas du tout. Non, c'est pour comprendre, en effet, la compréhension disons d'un problème qui peut devenir potentiellement une solution avec ce sujet des algues. Avant d'aller dans le détail sur les bienfaits, en parler un peu de l'agriculture, etc., et en effet de la différence de le fait qu'on soit resté disons chasseur-cueilleur comme tu disais dans le dans par rapport à l'océan, qu'est-ce que c'est qu'une algue? Combien il y en a? Je sais que tu parles aussi de spiruline dans ton livre, je voulais aussi démystifier cette partie-là, parce que c'est important de comprendre cette
Ouais.
partie-là. Bref, est-ce que tu peux nous
Alors
redéfinir
déjà,
un peu tout ça?
on va définir d'un côté les micro-algues qui vont être les algues unicellulaires, donc microscopiques, où on va retrouver alors on va la spiruline techniquement c'est une cyanobactérie, donc c'est un débat d'initié dans lequel je ne rentrerai pas à savoir si c'est une algue ou pas. Commercialement, en tout cas, ça plaît à tout le monde beaucoup plus d'appeler ça une algue qu'une bactérie, parce que je pense que ça se vendrait beaucoup moins si on appelait ça une bactérie. Mais en tout cas, bon, techniquement, c'est une bactérie. Mais bon, c'est les bactéries qui ont engendré les microalgues, donc bon, la limite est assez floue. Mais en tout cas, il y a plein de, il y a la chlorelle, il y a, il y a, il y a, voilà, il y a plein de microalgues par ailleurs. ailleurs. Il y en a des centaines de milliers et on en connaît pas la moitié, je pense. Là, on en est vraiment qu'au tout début des microalgues et il n'y a pas vraiment de production de masse, si ce n'est pour un peu de nutraceutique ou de cosmétique. Par contre, les microalgues, on en a 12 000 environ, donc beaucoup moins. Par contre, évidemment, les volumes sont beaucoup plus importants. C'est des organismes multicellulaires, donc avec plusieurs cellules. Donc, c'est des végétaux en fait qui poussent dans l'eau. La caractéristique d'une algue, c'est qu'elle n'a pas de fleurs et elle n'a pas de racines. Donc, vous allez trouver dans les rivières parfois des plantes aquatiques, parfois des algues aussi. Il y a des algues évidemment partout, des algues vertes notamment. Mais il y a surtout, vous voyez surtout des plantes aquatiques dans les rivières. Et le point facile, voilà, c'est que si elles fleurissent, c'est que c'est pas des algues, et elles n'ont pas de racines dans le sens où leurs crampons, elles font constituer les algues d'un crampon qui leur sert à s'accrocher uniquement à leur substrat, que ce soit des rochers, du sable ou autre chose, ou un coquillage, un stipe qui va être l'équivalent de la tige, c'est pas la même chose, et puis des frondes. Ou des lames qui vont être la partie haute de l'algue, la plus visible, qui elles leur permettent de jouer le rôle des racines, c'est-à-dire de capter les nutriments de capter la lumière déjà pour réaliser la photosynthèse et de capter les nutriments dans l'océan pour grandir et grossir. Donc voilà, 12 000 types d'algues, toutes comestibles. Aucune algue n'est mauvaise. C'est les premiers éléments multicellulaires sur Terre. Donc tout a commencé là. On l'oublie souvent, mais la vie, pendant 80% de son existence sur la planète, elle a été uniquement dans l'océan, sous forme planctonique d'ailleurs essentiellement, et puis après un peu sous forme d'algues. Il y a 1 milliard, 1,5 milliard d'années. C'est seulement il y a 0,5 milliard d'années qu'elle est arrivée sur Terre, d'ailleurs grâce aux algues. Donc voilà, c'est les premiers éléments. On va les diviser entre les algues brunes, les algues vertes et les algues rouges. Les algues brunes, c'est l'essentiel de ce que vous voyez en Bretagne quand vous marchez dans la mer, hein. Vous voyez beaucoup d'algues brunes, notamment. Les algues vertes, vous en voyez hélas aussi en Bretagne. Je pense qu'on y reviendra pour démystifier et surtout de rendre la vérité sur le sujet. Mais qu'est-ce que les algues vertes sont excellentes, mais il y en a trop en Bretagne, mais elles sont excellentes au demeurant. Et les algues rouges, bah, vous en connaissez aussi. Il y en a une qui est très connue qui s'appelle le nori, qui entoure les sushis que vous mangez dans les restaurants japonais. C'est ça qui est sûr, c'est que les algues, la couleur des algues correspond à une réalité biologique et pas forcément une réalité de couleur. Donc le nori qui est plutôt marron, alors parce qu'on l'a grillé en même temps, mais c'est l'algue rouge. Et le wakame vert fluo que vous mangez dans les salades vietnamiennes, japonaises aussi, c'est une algue brune. Donc c'est un peu complexe. Mais bon, bref. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que ce sont des organismes très 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 différents. Alors je reviens toujours à une anecdote là-dessus, c'est de dire que les algues rouges et les algues vertes, alors elles ont 1 milliard d'années environ. Les algues brunes sont beaucoup plus récentes. Et d'ailleurs beaucoup plus proche de bactéries terrestres. Enfin, elles ont que 200 millions d'années, donc c'est très très proche. Et par contre, les algues rouges, les algues vertes sont très anciennes. Elles ont plus d'un milliard d'années. Et elles ont évidemment évolué de façon extrêmement différenciée au cours des milliards d'années passées. Et les algues vertes ont elles migré un peu sur Terre au fur et à mesure des marées, des courants, des vents, etc. Elles ont réussi à prendre pieds sur terre, notamment en faisant alliance avec des champignons, etc. Et à créer toute la végétation que vous voyez autour de vous. Donc tous ces arbres que vous voyez en fleurs aujourd'hui au printemps, et ben ce sont des descendants d'algues vertes. Tous ces arbustes, toute l'herbe, tout ce que vous pouvez imaginer, les baobabs, tout est un descendant d'algues vertes. Et donc aujourd'hui, une algue verte, elle est génétiquement beaucoup plus proche que d'une algue d'un fraisier ou d'un baobab qu'elle ne l'est d'une algue rouge. La différence entre une algue rouge et une algue verte, elle est plus grande que la différence entre un champignon et un éléphant. Donc ça veut dire que évidemment il y a une diversité génétique, donc une diversité d'application de potentiel et un potentiel d'innovation en général qui est quasiment infini si on apprend à les cultiver et à s'en servir.
Depuis quand on utilise du coup toutes ces algues ? Donc tu parlais d'algues brunes, d'algues rouges, d'algues vertes. En effet, certaines qu'on utilise dans la cuisine asiatique notamment. Depuis quand est-ce qu'on a utilisé dans d'autres... Est-ce que déjà en Asie, on utilise d'autres choses que le nori ou d'autres ce type d'algues-là ?
Alors...
Et pareil, dans d'autres pays type pas occidentaux, africains, etc. Est-ce qu'on utilisait aussi peut-être ce type d'algues pour certaines raisons?
On a toujours utilisé les algues. L'exception, c'est de ne plus les utiliser, en fait. Et d'ailleurs, il y a des théories scientifiques qui ont prouvé que notre cerveau avait réussi à muter par rapport au cerveau d'un primate, d'un singe, qui a une masse par rapport à sa masse corporelle qui est beaucoup plus faible. Nous, il a muté pour devenir extrêmement gros par rapport à notre masse corporelle, évidemment, du fait d'un apport massif d'acides gras polyinsaturés qu'on ne trouve que dans les algues et le plancton, en fait. Donc, ce qui veut dire que la nourriture des premiers êtres humains, pendant des centaines de milliers d'années, parce que cet apport d'acides gras, il a dû se faire sur des milliers de générations, ça a été beaucoup, beaucoup grâce aux algues, en fait. Et ça, j'en parlais à un archéologue qui me disait que finalement, au 19e siècle, on a un peu copié-collé la conception de la société humaine qu'on avait, c'est-à-dire qu'on se dit, la préhistoire, on a dû devenir intelligent, on a eu plein de protéines parce que les hommes ont été chassés des mammouths pendant que les femmes restaient avec les enfants dans les grottes. Et la réalité, elle n'est pas du tout celle-là. Ça, c'était vrai au 19e siècle, c'était pas du tout vrai il y a 12 000 ans. La réalité, c'était, enfin, il y a 100 000 ans, c'était que les femmes, les enfants et les hommes cueillaient des petites algues et mangeaient des poissons sur le bord des littoraux. Et d'ailleurs, on a une très belle histoire sur l'autoroute des algues, qui est la première descente de l'humanité finalement le long de l'Amérique, hein, qui s'est faite sur la côte pacifique en suivant les algues et pas du tout comme on le pensait jusqu'alors, c'est-à-dire avant il y a une trentaine d'années, comme par la Terre. Donc il y a vraiment eu une, en fait, c'est il y a 12 000 ans que l'Union, que l'Europe, en fait, enfin que les Mésopotamiens, puis les Grecs et les Romains, qui ont été extrêmement influents sur la planète, se sont séparés des algues, se sont fâchés avec les algues, on va dire. D'ailleurs, on voit Virgile ou Aristote qui sont très méchants avec les algues. Virgile dit les algues sont l'organisme le plus vil sur la Terre, alors qu'Aristote dit que l'océan déteste tellement les algues qu'il les vomit sur la plage, ce qui est très nouveau. Et partout où les Romains et les Grecs vont aller, ils vont sortir les algues de l'histoire. Donc, par exemple, les Vikings, pourquoi ils voyageaient aussi loin, les Vikings? Parce que les Vikings, naturellement, parce que évidemment, dans ces pays-là, il n'y a pas grand-chose qui pousse, donc on mange des algues. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'ils ont colonisé l'Islande. C'est surtout comme ça qu'ils ont réussi à voyager aussi loin et à aller jusqu'en Amérique, et qu'il a fallu attendre longtemps après pour y aller, parce que après on mourrait du scorbut. Mais les algues, elles sont très très riches en vitamine C, et donc on mourrait pas du scorbut quand on mangeait des algues sur les bateaux. Mais les Vikings, l'invasion culturelle gréco-romaine s'est imposée à eux. Ils ont commencé à prendre du blé sur les bateaux au lieu de prendre des algues. Il y a 2 millions de marins en Europe, enfin au moins 2 millions de marins européens qui sont morts du scorbut en naviguant sur leur remède. Ce qui est assez terrible quand on connaît l'agonie que représente le scorbut. La plus ancienne trace de consommation d'algues, elle est en Amérique, elle est au sud du Chili, elle a 15 000 ans. Elle était utilisée pour soigner et pour se nourrir. On sait que les Maoris mangeaient des algues jusqu'à ce que les Européens arrivent, que les natifs américains mangeaient des algues jusqu'à ce que les Européens arrivent, que les aborigènes mangeaient des algues jusqu'à ce que les Européens arrivent. Tout le monde mangeait des algues, en fait. Et d'ailleurs, le seul pays qui n'a pas été vraiment colonisé massivement par les Européens au 19e siècle, c'est le Japon. Et c'est le seul où on mange encore des algues de façon aussi massive. Il y a sûrement un lien d'avoir su garder une tradition comme ça. Là encore, c'est toujours un peu dû à plusieurs choses. Les algues étant l'aliment santé et la culture asiatique, la médecine traditionnelle asiatique notamment, étant reliant beaucoup plus la santé à l'alimentation, ils ont gardé naturellement cette capacité à apprécier les algues et cet impératif de les manger, surtout là où nous on s'est dirigé vers une agriculture terrestre qui était très très efficace. Parce que les algues à cultiver, c'est dur. D'ailleurs, même les Japonais ont appris à le faire il y a très peu de temps, il y a 60 ans à peine. Donc c'est très efficace, mais c'est pas aussi bon finalement pour l'être humain, et ça devient très mauvais pour la planète de tout faire.
Ça veut dire qu'avant, quand on allait chercher ces différentes algues, on les cueillait, on va dire. On n'allait pas les cultiver. Enfin, la manière dont
Non,
c'est ça, on
non.
va.
Tout à fait. La culture, elle est vraiment très très récente pour le coup. On les cueillait, on était des chasseurs-cueilleurs et on l'est encore. En France, je dis tout souvent ça pour l'exprimer, on est le deuxième plus grand territoire marin au monde, hein. on a et on produit 0,01% de la production mondiale d'algues, quand on rien, et c'est à 98% de la cueillette. C'est-à-dire qu'en France, on a deux fermes, deux ou trois fermes en gros, enfin de taille un peu conséquente, j'entends. Et si on prend en détail, on doit en avoir une dizaine au mieux. Mais donc voilà, c'est assez ridicule. Et donc oui, c'est très récent en Asie. Parce qu'il y a eu une explosion démographique aussi en Asie, hein, qui était un peu plus tôt que la nôtre. Enfin, c'est un peu plus marqué là-bas. Et surtout, et donc voilà. Donc il y a eu un impératif de cultiver des algues en Asie dans les années 50. Il y a une autre culture d'algues qui s'est développée dans les années 50 en Asie du Sud plutôt, mais c'était plus développé par les Américains et les Européens. C'était pour produire des carrageenan, donc des texturants alimentaires, qui sont présents dans quasiment 80% des produits que vous mangez tous les jours. Donc vous mangez des algues sans le savoir tous les jours, grâce à des algues de culture de Philippines, d'Indonésie et un peu de Tanzanie. Grâce à ces extraits d'algues, vous connaissez le l'agar-agar sans doute, qui est aussi un extrait d'algues qui sert, qui est un texturant alimentaire. Bah, il y en a encore plus, bien plus commun que ça. L'alginate d'un côté et surtout le carrageenan qui est utilisé. Et ça, vous en, ces trois, ce qu'on appelle ces hydrocolloïdes, donc ces texturants alimentaires à base d'algues, on le trouve dans 80% des produits alimentaires. Vous en avez dans la bière pour empêcher la mousse de se faire. Vous en avez autour de la viande. Vous en avez dans tous les bonbons, dans tous les gâteaux, enfin, dans tous les produits transformés, les crèmes dessert, évidemment, le dentifrice, voilà, et les pâtes. Enfin, vous avez c'est vraiment dans beaucoup, beaucoup de produits. C'est ce qui donne la texture du produit. Donc ça, il y a une culture qui s'est développée, mais elle n'est pas très intéressante dans le sens où nutritivement, il n'y a aucun intérêt. Qu'on gaspille l'essentiel de la ressource parce que finalement on récupère que le texturant alimentaire et on jette tout le reste qui serait intéressant par ailleurs. Donc c'est un peu comme si on cultivait du blé pour garder que l'amidon, quoi.
Ok.
C'est un peu dommage.
Par rapport justement à toutes ces algues-là, tu parlais en effet juste avant de la partie santé, notamment des différents bienfaits qui peuvent exister. En effet, en Asie, on est très lié, on est très marqué sur cette volonté de dire que l'alimentation va aider la santé, hein, ce qui est vrai dans tous les cas.
Oui.
Quels sont les bienfaits justement des algues? Tu parlais juste avant de disant qu'on gardait uniquement les texturants justement dans l'industriel, ce qui en soi n'a pas grand intérêt à part juste remplacer, à être un substitut, ce qui est déjà bien hein, sur le fond, mais ça reste un substitut.
Ouais, c'est mieux que la
Voilà.
gélatine de porc, hein, même, donc
Ça
voilà, on est
ça
d'accord.
reste déjà mieux, mais il y a quelque chose de plus, heureusement, pour ce type d'aliment.
Ouais.
Qu'est-ce que ça apporte concrètement? Bon, il y en a 12 000 d'algues, on va pas les faire un par un, mais concrètement,
Ah, voilà,
globalement,
alors voilà,
à quoi
gardez
ça
en tête
correspond?
que, ouais. Gardez en tête que ça dépend des algues, évidemment, et donc les algues vont avoir des compositions très différentes, mais ce sont globalement des bombes nutritionnelles. En fait, ce sont vraiment un package de nutriments exceptionnellement important. Alors, on ne le sait pas, mais par exemple, il y a beaucoup plus d'algues, de magnésium, pardon, dans les algues que dans le chocolat. Donc, vous n'avez plus aucune excuse pour aller dévorer une tablette de chocolat sous couvert de vous charger en magnésium. Dans certaines algues, sont beaucoup plus riches en magnésium que dans le chocolat. Il y a beaucoup plus de calcium dans certaines algues que dans le lait, par exemple aussi. Donc, et puis on va même pas parler du zinc, de l'iode, des oméga-3 à longue chaîne, les EPA, DHA. Qui sont dans des micro-algues qu'on trouve du coup dans les algues. Donc il y a, c'est vraiment des aliments santé exceptionnels. Elles sont naturellement antifongiques, antibactériennes, antivirales, anti-inflammatoires. Donc et ce sont les prébiotiques naturels les plus puissants au monde. Donc elles ont, voilà, on a vraiment, d'ailleurs, on a une explosion des innovations médicales liées aux algues, hein, pour mieux soigner. Plus naturellement. Donc elles ont beaucoup de bienfaits santé. Elles sont très riches en protéines pour les algues rouges, notamment et vertes, pas tellement les brunes, mais les algues rouges et vertes sont très riches en protéines. On va sur la dulse ou du nori, l'algue du sushi par exemple, c'est on va atteindre 40% de protéines. Quand on pense que le soja c'est 25% de protéines et que nos saumons de Norvège ou d'Écosse on les nourrit avec du soja OGM qui a traversé la planète et qui a déforesté l'Amazonie alors qu'on pourrait leur donner des algues rouges qui poussent à côté si on savait les cultiver, on se dit que c'est un peu bête. Mais donc voilà, donc c'est très riche en protéines, donc il y a vraiment un ensemble de choses extrêmement bonnes dans les algues. Elles ont des bienfaits aussi, c'est qu'elles se conservent très bien. C'est-à-dire qu'une fois que vous séchez les algues elles sont habituées à être balancées sur la plage, à être séchées pendant 6 heures par jour s'il y a du soleil au moment des marées basses, et puis voilà, donc elles ont une structure qui est très résistante, beaucoup plus que les plantes terrestres. Donc si vous les séchez, vous gardez tous les nutriments. Et par contre, vous pouvez les transporter pendant des mois sans aucune chaîne du froid, en fait. Ça n'a pas besoin de les garder au frais, du coup. Et ça va vraiment se conserver des mois, mais même des années. Et donc ça, c'est une bonne nouvelle pour notre climat et pour notre santé, et pour les populations émergentes qui ont faim. Donc, et on notera d'ailleurs que pendant le confinement au Japon, les Japonais se sont jetés sur les algues séchées, là où nous on se jetait sur des pizzas surgelées et des pâtes. Et eux se sont jetés sur des algues séchées, ce qui, on imagine, a eu un poids un petit peu moindre sur la balance à la fin du confinement. Ils ont sans doute moins de problèmes de surpoids que nous. Mais donc voilà, donc il y a des bienfaits santé qui sont exceptionnels. C'est chargé en fibres, donc ça va être naturellement avoir un potentiel de satiété très fort, puisque vous allez avoir du temps à les digérer, donc votre estomac, il va vous envoyer une information comme quoi vous avez plus faim. Donc en mangeant très peu, en fait, vous avez l'impression de plus avoir faim, ce qui est très bien. Donc voilà, c'est encore une fois, c'est tellement vaste comme champ des possibles, que c'est dur d'être complet là-dessus. Et donc c'est très bon pour la santé, et c'est aussi très bon au goût. C'est quelque chose qu'on ignore souvent, mais c'est très bon au goût. Et donc il faut les essayer. On me dit souvent, c'est pas bon, mais enfin, voilà, les pommes de terre crues et les fèves de cacao crues, c'est pas bon non plus. Donc forcément, si vous arrêtez sur une plage et que vous goûtez un bout de goémon comme ça, en plus qui a une chance d'être à moitié pourri, ça va pas être bon. Mais des chips ou du chocolat, c'est bon. Par contre, les algues sur les cuisines, c'est bon aussi. D'ailleurs, on voit qu'il y a de plus en plus de grands chefs. On travaille avec Mauro Calogrèco, qui a 3 étoiles au Michelin, qui est au Mirazur à Menton. Il est fou d'algues. Pour lui, c'est un nouveau territoire gastronomique à sa portée. Il y a une cinquième saveur qu'on appelle l'umami, qui est très rare sur Terre, qui n'existe quasiment pas. Il y a cette cinquième saveur dans les algues, et donc c'est pour ça qu'il y a un côté un peu surprenant au début, où on a du mal à s'habituer. Mais quand on domestique cette saveur, c'est absolument délicieux. Il y a des potentiels en termes de goût qui sont assez incroyables. Voilà.
Quel type de, justement, enfin, là, je vais faire la question un peu, enfin, pas basique, mais avant de passer aux autres sujets, agriculture, etc. Mais du coup, quel type de, d'algues on peut consommer, nous, comme un des mortels? Bon, tu parlais, en effet, de grands cuisiniers qui, eux, vont savoir bien cuisiner ça, vont savoir bien, ben, le mettre en valeur, hein. Ça, c'est aussi le rôle des cuisiniers, et ça nous aide aussi à nous, après, in fine, à essayer aussi de notre côté, hein. J'en parlais avec Julien Marie, et notamment il y a longtemps sur le sujet de l'alimentation et de la cuisine. Je vous remettrai le lien. Concrètement, qu'est-ce qui existe dans le commerce qui qu'on peut, en effet, aller nourrir, mais
Alors, il n'y a pas grand-chose en effet. Alors, déjà, où en trouver? Il faut aller dans les magasins bio essentiellement. Enfin, maintenant, il y en a un petit peu dans les carrefours, dans les marchés, mais les magasins bio en ont, et surtout, il faut essayer de les prendre idéalement de France, quoi. Enfin, alors, on les récupère séchés, on va avoir du wakame. Donc ce qu'on retrouve dans les restaurants japonais, ce qu'on met beaucoup dans les soupes notamment, qui est très sympa, qui a un goût assez fort. On va trouver du nori, qui est rarement de France, parce qu'on sait pas le cultiver encore. Le wakame, idéalement, il est pas de France, parce que c'est pas vraiment autorisé à la culture, à part dans quelques exceptions. On va retrouver de la Saccharina latissima, donc du kombu, qui est celle qu'on met dans les soupes beaucoup, qui est une algue un peu sucrée, très sympathique. On peut faire des papillotes aussi avec, ça marche très bien. Faire du poisson papillote, si vous n'êtes pas végétarien encore, avec dans des algues, c'est dans des saccharinas, c'est très bon. Ou les mettre dans les soupes, on peut le mettre. En fait, l'intérêt, c'est d'utiliser les algues comme des condiments au départ, pour s'habituer au goût, un peu comme du poivre en fait, un petit peu tous les jours, et vous avez habitué au goût. Il faut très peu d'algues pour avoir les nutriments dont on a besoin. C'est pas la peine de le manger en salade. Quelques grammes d'algues par jour suffisent largement à combler tous vos besoins nutritionnels, en zinc, en magnésium, etc. Donc c'est pas la peine de s'en faire des tartines dès le début. Et puis après, il faut essayer. Moi, j'en mets partout, voilà, dans les omelettes, dans les salades, on peut vraiment en mettre en essayer. Il y a un truc qui marche bien, c'est le tartare. Le tartare d'algues, ça c'est assez facile. Vous coupez trois types d'algues, enfin vous prenez des types d'algues, trois types d'algues différents, petits morceaux en miettes, et puis vous mettez des huiles, de l'ail, ce que vous voulez, quoi, de l'échalote, voire du curry, etc. dedans, et c'est excellent comme tartinable. Et ils en vendent d'ailleurs des tout faits qui sont très bien aussi, hein. Il y a déjà des marques qui vendent de ça. C'est une bonne façon de commencer à s'y mettre, on va dire. Il y a de plus en plus de produits quand même. Il y a un produit qui est très sympa et qui est très facile, notamment pour les enfants. Je sors un livre pour enfants là, le 3 mai, là, Comment les algues peuvent sauver la planète. J'en profite pour en parler. J'explique ça là-dedans aussi, pour les enfants, il y a un truc qui est très simple, c'est les haricots de mer ou les spaghettis de mer. D'ailleurs, pour les enfants, on dit plutôt des spaghettis de mer. C'est des Emmentalia, c'est leur nom technique, mais c'est des longues algues qui ressemblent à des très très longues spaghettis. Et ça a un goût relativement peu important, ça a plein de bonnes choses, et ça ressemble vraiment à des spaghettis vertes. Donc, si vous mettez de la crème ou des choses avec, ça peut être vraiment très bon. Moi, j'ai une recette qui fait vraiment, qui surprend beaucoup et qui est toujours excessivement appréciée. C'est des spaghettis de mer avec du fromage de chèvre et de la mangue. C'est très surprenant, mais c'est excellent. Et je connais personne qui n'a pas aimé, à part si vraiment vous détestez la mangue, évidemment, ou le fromage de chèvre. Mais vraiment, c'est très sympa et c'est un bon moyen de vous manger froid. Je conseille aussi de manger les algues froides au début. Le goût ressort un peu moins et donc ça permet aux papilles de s'habituer un peu à ce fameux goût de umami.
Nickel. Bon, merci beaucoup pour. Je mettrai le lien de ton livre, en tout cas le
Et vous
titre.
avez des
Ouais.
super marques en France pour les citer, hein, Marie Noé, Bord à Bord, Neptune à Paris font des choses très très sympas et il y a plein d'innovations qui se font. Il y a une boîte qui s'appelle Zalg qui fait des espèces de cubes en algues comme des champignons un peu qu'on fait frire. Ils veulent créer la pomme dauphine de la pomme de terre mais en algues. Donc voilà, il y a plein d'innovations qui se font. Donc, allez regarder, il y a vraiment des choses chouettes.
Nickel. Par rapport au sujet du coup de l'agriculture, t'en parlais justement. En effet, il y a pas mal d'algues, en tout cas, on ne sait pas encore produire de base. Avant de parler de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les produire, etc. Mais concrètement sur l'avantage que peut avoir l'algue sur l'agriculture, t'en parlais aussi, notamment par rapport aux poissons, t'en parlais aussi juste avant. Quel avantage ça peut avoir ce de on a compris du coup pour la santé, pour l'alimentation, disons, humaine.
Ouais.
Et maintenant, quand on souhaite aussi, parce qu'on va dans tous les cas avoir de l'élevage, on va continuer à avoir tout ça, de la pisciculture et autres, comment est-ce que ça peut nous aider à réduire un peu cette quantité de soja, et autres céréales qui ont des méfaits sur la planète qu'on connaît très bien?
Donc, très simplement, c'est qu'on va utiliser, si c'est bon pour les êtres humains, ça va être bon pour les animaux, les algues. Et donc, on va utiliser les algues pour nourrir les animaux. Et ça, c'est une très bonne idée déjà, dans un premier temps. Aujourd'hui, la plus grande ferme d'algues en Europe, elle est aux îles Féroé, et l'intégralité de sa production, elle va nourrir des cochons au Danemark. Et on se rend compte que ça fait exploser leur système immunitaire. En France, il y a une excellente filiale qui s'appelle Merci les algues, un label en fait, où tout ce qui est produit avec des algues qui remplacent les antibiotiques. Cocorète, par exemple, le numéro 3 des œufs, enfin, je dis pas ça parce que je ne touche rien sur ces marques-là. Hein. C'est juste que ceux qui font les choses bien, j'ai peut-être parlé d'eux. On est suffisamment dans le bashing. Donc, voilà, il y a des marques qui font des œufs sans antibiotiques en nourrissant leurs poules avec des algues parce que les algues, comme chez les humains, comme chez les animaux, ça va booster le système immunitaire et donc ça permet à ces animaux d'être beaucoup plus résistants. Et quand on connaît le problème de l'antibiorésistance, c'est pas anodin. Donc, ça va être très bon pour eux. Il y a les meilleurs moutons du monde, hein, c'est les moutons du nord de l'Écosse, d'une île perdue au nord de l'Écosse, North Swanarthe, où il y a des moutons qui se nourrissent uniquement d'algues. C'est une histoire incroyable et les locaux les ont isolés sur la plage avec un mur. Les enfermant sur les berges pour les empêcher de manger de l'herbe en fait ou des nourritures terrestres parce qu'ils veulent que ces moutons ne mangent que des algues pour garder leur chair exceptionnellement bonne en fait. Donc voilà. Et ça a d'autres intérêts. Ça, alors l'intérêt sur la pisciculture dont tu parlais, ça il est énorme dans le sens où on va complètement changer les règles du jeu. Où on va créer des écosystèmes régénératifs dans l'océan. L'idée, c'est pas de faire pousser seulement des algues, mais de faire pousser une aquaculture intégrée avec des algues et puis à côté des poissons et puis à côté des huîtres et puis à côté d'autres coquillages et puis des concombres de mer et puis voilà. Et tout ça va avoir des externalités positives pour les autres cultures. On va créer une permaculture des océans qui va être extrêmement productive. Il y avait eu une analyse de Wageningen, l'université hollandaise, qui disait qu'avec 2% des océans, on nourrirait 12 milliards de personnes en protéines, sans aucun besoin de protéines végétales ou animales, si on faisait les choses bien à ce niveau-là. Donc, cette permaculture des océans, elle peine à voir le jour, parce que c'est très compliqué dans la mise en œuvre, mais notamment la formation des opérateurs. Mais elle a un potentiel qui est énorme, et il y a sans doute de très beaux jours devant eux. Mais c'est, encore une fois, c'est pas que pour les poissons, les algues, hein, c'est aussi pour les animaux terrestres. D'ailleurs, avec les vaches, on a une promesse assez miraculeuse, puisque les algues, certaines algues, en tout cas une petite algue rouge australienne, va permettre de réduire de 90% les émissions de méthane des bovins. Et quand on sait l'impact que ça a, le méthane sur l'environnement, enfin sur le climat surtout, bah c'est vraiment pas anodin. Pour résumer cette promesse en une phrase, si on arrivait à donner et à cultiver déjà, alors c'est une algue qu'on sait un petit peu cultiver en Australie, mais pas encore dans le reste du monde. Mais si on arrivait à donner 40 grammes de cette algue-là tous les jours à tous les bovins de la planète, l'impact sur le climat serait équivalent à arrêter toutes les voitures et tous les camions du monde du jour au lendemain. Donc on ne parle pas de quelque chose d'anodin, on parle vraiment de quelque chose d'intéressant. Et pour répondre à ta question de façon complète, l'agriculture, le plus gros potentiel des algues, sans doute, il est encore même pas là. Il est dans les algues comme un biostimulant naturel qui vont permettre aux nutriments de revenir sur Terre et donc aux algues d'être plus résistantes et de ne plus avoir besoin de pesticides ou d'intrants chimiques pour pousser. Depuis des siècles et des siècles, en Bretagne, on épand des algues sur les champs, sur les potagers, pour rendre les potagers ou les cultures plus résistantes. Ça les permet d'être plus résistantes au froid, à la sécheresse, au sel, au stress abiotique, etc. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et ça crée une circularité des nutriments aussi. Alors là, on va s'arrêter un tout petit peu et peut-être faire un arrêt sur les algues vertes. Parce que l'idée, c'est quoi là? C'est de se dire qu'avec des algues, on va récupérer les nutriments qui vont dans l'océan et on va les renvoyer sur la Terre. Parce que finalement, les algues vertes, c'est quoi? Ces histoires d'algues vertes, c'est des algues proliférantes. Et on va voir pourquoi ça a un lien avec l'agriculture. Parce qu'en fait, ça vient de l'agriculture, les algues vertes. Ça vient d'une agriculture bretonne extrêmement dense. Hein, la Bretagne, c'est 60% des cochons français sur 8% du territoire, donc c'est des élevages très denses, avec toute la culture que ça implique à côté. Et donc ces élevages et cette agriculture, ils vont avoir des externalités très fortes. On va balancer des phosphates et des nitrates dans les terres de façon massive. Évidemment, les plantes ne vont garder qu'un infime pourcentage de ces phosphates et nitrates qui vont arriver dans les sous-sols, dans les voies d'eau et aller dans les bassins versants. Et dans le même temps, bah, les cochons, ils vont avoir des déchets, on va dire, qui vont être remplis de nitrates, qui vont eux-mêmes arriver dans les bassins versants. Donc, on a l'océan qui est assailli par une montagne de nutriments qui vient d'une agriculture qui est, encore une fois, chimique et d'un élevage qui est intensif. Donc, les algues vertes, c'est pas le problème, c'est le symptôme d'un problème. Ce problème, c'est cette surexploitation de la terre sans gérer les conséquences en plus dans l'océan. Ça, c'est autre chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand il y aura tous ces nutriments qui arrivent? Les océans, ils vont déployer un système immunitaire, en fait, qui vont être ces algues vertes, qui vont capter tous les nutriments pour protéger le biotope, pour protéger les autres éléments vivants dans l'océan. Ces algues, elles vont se développer. Hein. Si ça fait pousser les plantes, le phosphate et le nitrate, il n'y a pas de raison que ça ne fasse pas développer les algues vertes qui sont leurs ancêtres. Et donc, ces algues, elles ont un inconvénient, c'est qu'elles se décrochent facilement. Donc, elles vont aller sur les rives, aller sur la terre, se décrocher, finir dans les grandes baies sableuses où elles vont s'accumuler. Et là, on va avoir des montagnes d'algues vertes qui vont se former, qui vont pourrir. Et pourrissant, elles vont manger tout l'oxygène et dégager un gaz qui va détruire la vie. Mais le phénomène, il serait le même si vous aviez des pommes. Si vous mettiez 10 millions de tonnes de pommes pourries sur une plage, il n'y aurait plus un gramme de vie dessus parce qu'elles pourriraient et ça détruirait tout aussi ou dans votre jardin. Donc c'est les algues et les pommes, c'est bon. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est la prolifération et le pourrissement. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire contre ça? Bah, déjà, on pourrait imaginer assez simplement aller récolter ces algues en mer avant qu'elles se détachent. C'est compliqué parce que il faut des machines qui risquent de bouleverser un peu les écosystèmes. On commence à le faire un petit peu, on arrive à s'améliorer, mais c'était surtout impossible jusqu'à maintenant parce que le gouvernement qui a quand même eu un rôle avec l'ensemble de la filière industrielle et agricole en Bretagne, assez important, on va dire, pour cacher ce scandale et cacher le lien entre algues vertes et agriculture intensive, élevage intensif. Mais en tout cas, le gouvernement, jusqu'à récemment, il empêchait de récolter les algues vertes. Alors là, pour le coup, c'était partant d'une bonne idée, se dire, si on commence à valoriser les algues vertes qui sont le fruit d'une pollution, comment vous allez convaincre les cultivateurs d'arrêter de polluer en cultivant? Ils vont vous dire, bah ouais, mais regardez, ça crée des emplois sur la côte. Donc l'idée, c'est de ne pas valoriser le fruit d'une pollution. Ce qui est bien, mais ce qui n'est pas suffisant quand ça atteint des montagnes comme ça. Mais en fait, aller les récolter, c'est même pas ça le plus intéressant. Ce qui serait intéressant, c'est de cultiver dans ces bassins versants, dans ces zones où s'accumulent les nutriments des terres, des algues brunes qui ont une structure beaucoup plus résistante, qui iraient capter les nutriments avant les algues vertes. Ces algues brunes, on vient les récolter une fois par an et on les ramène sur la terre. Et on crée une économie, une agriculture réellement circulaire qui intègre la terre et l'océan. Enfin, on recrée avec les algues un lien de vie entre la terre et l'océan. On récupère ce phosphate et ce nitrate qu'on achète une fortune aujourd'hui. Aujourd'hui, en Europe, c'est 5,5 millions de tonnes de nitrate par an qui sont perdues dans les océans. Perdu pour toujours, enfin pour quelques centaines de millions d'années à tout au moins. Et donc on les perd alors qu'on pourrait les récupérer avec des algues. On va dire ça paraît illusoire, ben non, ça ne l'est pas. En Chine, c'est déjà le cas. Dans la Chine, dans 5 ans, ils seront neutres en phosphate. Là où nous, on ira payer de plus en plus cher du phosphate qui vient d'Afrique du Nord, qui est extrait dans des conditions éthiques absolument dramatiques, et qu'on sait que dans 20 ans, on n'en aura plus de phosphate en Afrique du Nord, et donc plus de phosphate pour l'agriculture, et donc des famines mondiales colossales dans tous les pays du monde, ce qu'on appelle déjà le phosphaguédon. Et ben d'ici là, la Chine, elle sera neutre en phosphate. Elle aura appris à recycler tout son phosphate grâce aux algues, en cultivant dans les bassins versants où sont accumulés les résidus, les déchets de phosphate, des algues qui leur permettent de ramener les phosphates sur la Terre. Donc on voit que et aujourd'hui, selon la Banque mondiale, selon toutes les analyses les plus poussées, le plus grand potentiel des algues, il est là.
Okay.
Il est de récupérer tout ce qui vient de la Terre et de le ramener sur la Terre pour éviter que ça se perde. Il n'y a pas de déchets. Il n'y a que des bioressources mal exploitées ou pas exploitées.
Donc ça veut dire qu'en gros, si on reste du coup sur cet exemple-là de l'algue verte, c'est-à-dire qu'en gros, si tu rajoutes d'autres types d'algues, si tu pars du principe que tu mets un autre, disons, concurrent à l'algue verte que tu vas du coup cultiver à côté, ça va, disons, prendre aussi ces nutriments-là et les remettre après, in fine, dans l'agriculture, etc., pour faire en sorte que ça fasse une circularité, quoi.
Exactement. Exactement. Et on va évidemment cultiver des algues locales, jamais introduire d'algues non locales. On va préserver les écosystèmes. Et donc cultiver une algue locale qui vit déjà là, mais qui va être plus robuste, donc qui ne se détachera pas, c'est le premier avantage, qui va absorber les nutriments en premier. Donc il y aura toujours des algues vertes, mais elles vont rester en nombre raisonnable. Et ces algues-là, qui sont robustes, on pourra les récolter facilement. On va les accrocher à des fils. On n'a pas parlé comment c'était une ferme d'algues, mais en gros, vous tirez des fils dans l'océan, vous laissez pousser, vous les ensemencez d'algues avant de les tendre, et puis les algues, elles vont pousser, et puis voilà, et puis vous les coupez quand elles sont un peu grandes, quoi. Donc c'est très très simple, hein, il n'y a besoin de rien du tout pour cultiver enfin, il y a besoin de comprendre comment ça marche, mais une fois que vous avez compris le problème des semences et de comment elles se protègent et de tout ça, bah, c'est très simple. Vous les laissez pousser tranquillement, il leur faut de l'eau salée, du soleil et un peu de nutriments, et ça
Et
roule.
donc là, tu parlais en effet donc ça de ce type en effet de ferme qui peut exister pour notamment tu disais en Chine en effet pour récupérer tous ces nutriments. Tu parlais aussi juste avant de la permaculture en mer, etc. Est-ce qu'il y a des zones où ça existe déjà disons des sortes de fermes marines
Il y a des zones. Alors, il y a des fermes d'algues assez importantes. Il y a pas mal de projets en ce moment, notamment avec la France qui a sorti une feuille de route il y a quelques semaines pour le développement de la culture d'algues. J'espère que nous, au sein de notre coalition qu'on a formée, donc on a eu un rôle là-dedans. Mais il y a pas beaucoup de. Encore une fois, il y a pas beaucoup d'exemples à très grande échelle au niveau commercial. Et on se heurte là à des problèmes réglementaires, beaucoup à une immaturité réglementaire très forte avec des difficultés d'avoir des licences qui sont très importantes pour faire ce genre de ferme parce que ça n'a jamais été fait et qu'on ne connaît pas et donc les autorités sont très 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 réticentes. Des contraintes aussi d'ordre éducatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, Quelqu'un qui a une ferme, enfin qui est un ostréiculteur, il sait pas cultiver des algues et il sait encore moins les vendre et à qui les vendre. Donc bah, c'est compliqué pour lui de faire les deux. Donc voilà, de cet ordre-là. C'est ça, aujourd'hui, on est très dans le pratico-pratique sur la mise en place de cette solution.
Et donc tu me disais justement des réglementations, ça veut dire que c'est une méconnaissance ou c'est certaines algues qui potentiellement, enfin tu disais que toutes les algues pouvaient potentiellement être mangées ou en tout cas être utilisées pour l'être
Ouais.
humain ou pour d'autres espèces. C'est vraiment une question de méconnaissance qui fait que certaines sont interdites ou pas boostées. Après bien entendu t'as le fait de pas le faire comme tu disais parce que certains ne pourront pas le faire parce que c'est difficile de le faire. Mais d'un point de vue à la base, disons la réglementation, c'est vraiment uniquement ça.
Ah ben les réglementations sont très restrictives, on va dire, à tout du moins, beaucoup plus qu'au Japon, par exemple, hein, qu'en Asie, où on a une belle expérience. Sur l'iode, par exemple, on a des taux de tolérance à l'iode, selon la réglementation, qui sont très très bas. Parce qu'on se retrouve dans une situation absolument ubuesque où les productions parfois elles sont trop hautes et donc les producteurs français vont aller exporter leurs algues au Japon où les tolérances sont bien plus élevées pour ensuite les ramener en France puisque une fois sur le marché japonais elles sont valables sur le marché français. Donc là on a vraiment un travail mais qu'on a commencé aussi à notre niveau avec la FAO pour essayer d'harmoniser un peu ces réglementations-là. Mais il y a une vraie, vraie méconnaissance, et puis il y a surtout un problème de méconnaissance à cultiver les algues et comment le faire et comment les cultiver. Ça, c'est sans doute le plus grave des problèmes. C'est un déficit de science énorme, sur la culture d'algues. Il y a un chiffre que je cite souvent. L'INRA aujourd'hui, elle emploie 550 chercheurs sur deux types de blé qu'on cultive depuis environ 10 000 ans. Pendant que la recherche en France a environ 70-80 chercheurs qui travaillent sur 12 000 types d'algues différents qu'on a très très différents qu'on a commencé à cultiver il y a 20 ans. Donc essayez en tout cas. Donc voilà, il y a un déficit de science qui est colossal là-dessus. Là, c'est sans doute le plus grand frein, quoi.
L'autre sujet par rapport aux algues, donc on a parlé d'alimentation, on a parlé de l'agriculture, on a parlé des algues vertes, donc merci d'être revenu dessus avant que je l'aborde. Sur l'autre thématique, c'est la séquestration. Tu parles notamment dans ton livre du sujet de l'azolla, bon, qui est pas, ce que j'ai compris, ce qui est pas en tout cas une algue, mais en tout cas donner cet exemple-là, qui est en gros un végétal qui a permis d'aller séquestrer une grande quantité de CO2 avant de le mettre au fond des océans. En gros, l'algue pourrait jouer potentiellement ce rôle-là aussi. Quel potentiel a l'algue dans le refroidissement, en tout cas dans le captage de gaz à effet de serre massif?
C'est très dur à dire à l'heure actuelle, encore une fois, on a un manque de science sur le sujet qui est flagrant. Ce qui est sûr, c'est que les algues, elles captent du CO2. Les algues sauvages dans le monde absorbent autant de CO2 que les émissions de la France et de l'Angleterre aujourd'hui. Donc c'est déjà pas mal. Qu'elles ont un fort potentiel à décarboner l'économie en remplaçant les fertilisants, en réduisant les émissions de méthane. On parlera peut-être du plastique aussi, en remplaçant le plastique. Mais donc elles ont un fort potentiel à décarboner l'économie et sans doute aussi à séquestrer du carbone en l'envoyant au fond des océans. Finalement, la Azolla dont tu parlais, c'est un mécanisme exactement qui illustre bien ce phénomène. Une algue, quand elle pousse, elle va perdre beaucoup de biomasse, comme nous, quand on a sujet à des frottements, on perd des cellules de peau. Ben, les algues, elles sont en permanence sujet à des frottements. Et donc, 50% de leur biomasse de croissance, elle va être perdue, dissous dans l'océan, c'est du carbone dissous. Et une partie de ce carbone va tomber au fond des océans, là où il y a quasiment plus ou pas beaucoup de bactéries pour les dégrader et les relâcher dans l'oxygène, comme c'est le cas pour les feuilles d'arbres qui vont tomber par terre. Ces feuilles d'arbres vont être immédiatement dégradées et le carbone retourne dans l'atmosphère. Donc là, on a un intérêt dans les algues à se dire que les algues qui vont tomber au fond de l'océan, elles vont être prisonnières du fond des océans et donc elles vont pas se relâcher, le carbone va pas se relâcher dans l'atmosphère avant des milliers, voire des millions d'années. Donc on a une pompe à carbone potentielle existante ici. Après, il y a des débats qui sont très importants. La science, je pense, aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à quantifier cette quantité de carbone. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas de mécanismes de crédit carbone sur les algues comme il y en a sur les arbres, parce que la feuille de l'arbre, elle tombe par terre, donc on voit à peu près voilà, ce qui se passe, il reste là, il bouge pas, les algues, elles bougent, il perd ses feuilles, on ne sait pas combien il en perd. Quand une feuille se détache, enfin quand une, pas une feuille, quand une lame se détache, elle va dériver pendant des kilomètres, voire des dizaines, peut-être même des centaines de kilomètres, on ne sait pas trop. Donc c'est très dur de comprendre où finit ce carbone pour des algues. C'est pour ça que les méthodologies scientifiques peinent à se mettre d'accord sur quelque chose. Donc il faut être prudent. Et il faut surtout pas, comme ça a été le cas, je pense, rentrer dans des considérations du genre on va faire pousser des gigatonnes d'algues dans la mer pour les envoyer au fond des océans et séquestrer du carbone. On risque bien de créer un problème plus grave encore que celui qu'on affronte et on n'a aucune idée de ce que ce sera. Donc il y a un potentiel. Il y a un potentiel de décarboner l'économie, il y a un potentiel d'absorber du carbone, il y a un potentiel d'avoir une nourriture qui soit presque capable d'inverser le réchauffement climatique, en effet, en prenant le gaz de l'atmosphère et en l'envoyant au fond des océans. Mais là-dessus, il faut être très prudent.
Tu parlais du plastique avant de. J'avais d'autres questions sur un autre sujet. Tu parlais du plastique. Comment est-ce qu'on peut, avec les algues, remplacer le plastique?
C'est très simple en fait. Hein. On parlait des algues sédimentées au fond des océans. Le pétrole, c'est des algues qui ont sédimenté au fond des océans. Et donc finalement, c'est des poly le pétrole avec lequel on fabrique le plastique, ce sont des polymères présents naturellement dans les algues. Donc ces polymères, c'est puis de les extraire d'algues vivantes cette fois-ci et de faire des plastiques. Alors là, pour ceux qui me regardent, voilà, ça c'est un morceau, c'est de l'algue pure. En fait, si j'avais des dents assez fortes, je pourrais le manger. Et ça, c'est un sachet en plastique, en fait, où il y avait de l'huile à l'intérieur et j'ai mangé un bout du sachet. Voilà, c'est un sachet qui est biodégradable, compostable et comestible. Donc là, c'est de l'algue pure, en fait. Notpla, qui est un peu l'entreprise leader aujourd'hui, même s'il y en a d'autres, hein, Flexi, Ranova, Bizios, qui travaillent sur ces solutions à base enfin, pour remplacer le plastique. Notpla a eu le Earthshot Prize du prince William, qui est un peu le prix d'excellence environnementale au niveau mondial aujourd'hui pour son travail. Notpla, ils ont remplacé tous les au marathon de Londres, ils ont remplacé tous les gobelets en plastique par des bulles en algues qu'on gobait et on mangeait le contenant et le contenu, enfin le verre d'eau quoi, et puis le verre, enfin le contenant. Donc c'est une bulle en l'occurrence. Donc voilà, donc il y a des innovations de rupture là aussi qui sont là. Aujourd'hui, on estime que 0,3% des laminaires présentes sur la planète suffiraient à remplacer le plastique sur Terre, de ce qu'on a fait en tout cas. Alors après, faut faire attention parce qu'il faut quand même pas. C'est énorme, 0,3% des laminaires. Donc il faut apprendre à les cultiver, il faut apprendre à l'extraire proprement, etc. Donc là aussi, il y a encore de la science. Hein. On n'a pas envie non plus d'extraire les composés des algues avec des solvants et des procédés chimiques qui sont encore plus mauvais que le remède. Donc voilà, il y a des solutions enzymatiques aujourd'hui pour extraire les composés qui sont intéressantes, mais en jouant sur le microbien, etc. Mais là aussi, avant de passer à l'échelle, il faudra peut-être un petit peu de temps. En tout cas, il y a des solutions qui avancent bien et l'essentiel des solutions d'alternatives au plastique durable et à grande échelle viennent sans doute de l'algue.
Tu parlais justement.
Il n'y a pas que d'ailleurs, hein, il n'y a pas que parce que il y a le coton par exemple aussi. Le coton, toutes les matières polluantes pourront être remplacées par les algues. Le coton, c'est très mauvais, c'est 2% je parle même pas des fibres synthétiques, des matières synthétiques qui sont des microplastiques, mais même le coton, c'est 2% des terres cultivées, 25% des herbicides et 10% des 25% des pesticides et 10% des herbicides, pardon. Donc c'est très très chargé et c'est enfin ça consomme beaucoup de produits chimiques et c'est très chargé en produits chimiques. Et aujourd'hui, on a une filière de la mode qui s'intéresse de plus en plus aux algues. Pour avoir des matériaux vraiment durables, vraiment respectueux de l'environnement. Et d'ailleurs, la forte teneur en produits chimiques explique aussi pourquoi une des startups les plus avancées dans tout ce qui est le coton à base d'algues, c'est une marque de tampons périodiques uniquement en algues, puisque finalement, avoir un produit chimique dans la partie la plus absorbante du corps, c'est pas forcément une très bonne idée. Et donc avoir un matériau naturel comme l'algue, c'est une bonne chose. Donc c'est Vild, dans l'occurrence, hein, Vyld, c'est une start-up allemande qui fait ça. Et c'est vraiment très chouette ce qu'ils font. Et voilà.
Est-ce que justement il y a, on voit du coup tous ces potentiels qui existent avec en effet l'agriculture, avec l'alimentation, avec le textile, le plastique, etc., la séquestration et autres. Est-ce qu'il y a un risque de... Tu parlais du coup de déficit de la science, enfin en tout cas de le fait qu'on n'avance pas suffisamment vite, hein, parce qu'en effet, comme tu disais, il n'y a pas suffisamment de chercheurs, il n'y a pas suffisamment de recherches encore dessus, même si j'imagine que ça s'accélère depuis quelques années, grâce à ton travail et d'autres personnes qui travaillent sur le sujet. Quel risque on aurait, disons, de dire, bah on fait all-in sur les algues, enfin all-in peut-être pas, parce que là du coup on risque sûrement beaucoup de choses, mais tu vois, si on se focus par exemple sur, si on se focalise, excuse-moi, sur le par exemple sur l'agriculture donc marine, on va dans les océans, on met des algues. Est-ce qu'il y a un risque sur la biodiversité locale de mettre trop d'algues? Est-ce que si on commence par ça déjà?
Alors, il y a toujours un risque dans tout ce qu'on fait déjà, et encore plus quand on s'attaque au naturel. En fait, la question c'est pas qu'est-ce qu'on cultive, la question c'est comment on le cultive pour tout, que ce soit pour les algues ou pour le reste. Donc, mais l'intérêt très fort que je vois moi dans les algues, c'est qu'il y a rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous arrivez et que vous dites moi la culture du maïs c'est fait n'importe comment, je vais tout changer. Bah, vous risquez d'avoir pas mal de gens qui vont pas être d'accord avec vous, et qui vont vous freiner, qui vous empêcheront d'avancer. Idem pour le blé et toutes les autres cultures terrestres. Donc, tout réformer pour créer quelque chose de complètement durable, déjà, vous allez risquer de créer des famines et de tuer, enfin, indirectement de tuer des gens en réformant tout un secteur comme ça, évidemment, si on vous laissait le faire, parce qu'il y a il y a une temps d'adaptation, de compréhension, de voilà, on peut pas tout changer comme ça du jour au lendemain et que ça marche aussi bien, même si à la fin ça marcherait sans doute mieux. Mais ce temps d'adaptation, il impliquerait des famines. Et puis par ailleurs, et puis bon, il y a aussi des lobbies, il y a des intérêts excessivement importants, donc qui n'ont pas intérêt à ce que les choses changent trop, en tout cas pas trop pour eux. Donc vous avez une résistance au changement qui est très forte sur Terre. On est sur des flux extrêmement tendus, donc c'est très compliqué, des marges très faibles, dans l'alimentaire. Donc c'est très compliqué de changer. Alors que là, dans l'océan, vous avez rien. Donc c'est à vous de définir ce que vous voudrez mettre en place. Donc en fait, j'ai envie de dire que là, c'est à notre génération et surtout peut-être encore plus à la prochaine de ce qu'ils veulent en fait. Est-ce qu'ils veulent reproduire les mêmes erreurs que sur Terre, mettre le profit en avant avant toute autre chose et des gains de productivité à court terme excessivement importants, ou est-ce qu'on va être et dans ce cas-là, peut-être que c'est pas la peine qu'on survive en tant qu'humanité. Mais est-ce qu'on arrive à apprendre nos expériences et à faire quelque chose de vraiment durable, de vraiment régénératif? Et là, en tout cas, on a un espace pour le faire sans que personne ne s'y oppose. Donc c'est ça qui est intéressant. Ça, c'est la première partie de la question sur le risque. La deuxième partie, c'est est-ce qu'on peut pas déséquilibrer des écosystèmes? Évidemment, on le peut, mais de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors déjà, il y a des règles, on cultive que des algues locales, on va essayer de cultiver plusieurs algues ensemble, de faire de la permaculture, etc. On va évidemment être extrêmement précautionneux sur les impacts environnementaux que ça représente, mais aujourd'hui, toutes les fermes d'algues semblent démontrer que les impacts environnementaux, ils sont plutôt positifs. En fait, c'est comme si on vous disait, vous allez replanter une forêt, là, oh là là, vous êtes sûr que ça va pas créer des problèmes? Si vous avez une forêt qui a brûlé et que vous en replantez une forêt, il y a des chances que ce soit plutôt positif pour... Après, ça dépend évidemment si vous replantez qu'un type d'arbre et que c'est pas un type d'algue, un type d'arbre local, c'est pas une bonne idée. Mais si vous replantez la forêt peu ou prou dans ce qu'elle était, il y a des chances que ce soit positif sur la biodiversité. Et ça vous empêche pas après d'aller prendre un peu de bois pour le brûler de temps en temps, ou d'aller récupérer des fruits qui vont tomber, ou ça là, de l'utiliser les ressources que va produire la forêt. Mais donc on est dans une espèce de reforestation, et ça c'est important parce que aujourd'hui ces algues elles disparaissent en fait encore plus vite que l'Amazonie, j'ai envie de dire la plus grande forêt d'algues de Californie là, elle a disparu de 80% dans les 10 dernières années, elle a entraîné la disparition de 800 espèces. Donc
Pour quelle raison?
il est important. Alors c'est un réchauffement qui a fait que l'étoile de mer, une étoile de mer qui mangeait les oursins, donc l'étoile de mer a disparu dû à un réchauffement climatique, et les oursins ont proliféré, les oursins ont brouté toutes les algues, et il n'y a plus une seule algue ou presque dans la région. Donc avec tout l'impact écosystémique que ça a, en fait, on a des. Faut pas penser que. Moi, souvent, on me dit oui, on va aller faire le bordel dans les océans comme on l'a fait sur Terre, mais on le fait déjà très 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 largement. On considère l'océan comme une grande déchetterie. On s'imagine que c'est immense, mais ça l'est pas du tout. Et on a déjà détruit l'essentiel de la biodiversité dans les océans. Donc, il est temps de l'aider, en fait. Et on se rend compte qu'en aidant un peu les écosystèmes, tant qu'ils sont pas complètement retournés, on arrive à les réparer. On arrive à les réparer, et si on veut Voilà, si on veut réparer les océans et la vie dans les océans, faut commencer par le bas. Quand vous réparez une maison, vous commencez pas par le toit, vous commencez par la fondation. Et ben, la fondation de la vie dans les océans, c'est les algues et le plancton, comme je l'ai dit. Et ben, c'est par ça qu'il faut commencer si on veut réparer les océans. Donc, replanter, cultiver, préserver les algues, reforester les océans, c'est ça qui est important en fait. Et donc ça va sans doute avoir une très très bonne impact sur les. Et on le voit. Moi, je vais souvent à Lesconil, j'y serai encore là où il y a la première grande ferme d'algues d'Algo Lesco. Au début, où ils étaient, où ils ont lancé leur ferme, il y avait des pêcheurs étaient extrêmement mécontents. Mon beau-frère est pêcheur là-bas et extrêmement mécontent de voir une ferme d'algues arriver. Ils avaient très peur. Il y avait des algues vertes, vous avez vu, etc. Et l'entrepreneur, il devait payer des gardiens la nuit pour empêcher les pêcheurs d'aller couper les câbles, pour faire pousser les algues. Et aujourd'hui, les pêcheurs, ils défendraient leur ferme d'algues parce qu'ils n'ont jamais eu autant de poissons qu'aujourd'hui. Mon beau-frère m'a dit, moi, ça fait 70 ans que je pêche là, j'ai jamais vu ça. Il y a plus de poissons qu'il n'y en a jamais eu. Et dans le même temps, il y a plein d'huîtres qui poussent sur les câbles. Donc, ils récoltent les huîtres, ils les filent à tous leurs employés. Ils savent plus quoi faire des huîtres, les employés, de la boîte, de la ferme. Donc, voilà. Donc, il y a toute une vie qui renaît, quoi. Et c'est ça qui est très, très, très important, en fait.
Tu parlais notamment de ces différentes algues, dont en fait on est capable de les cultiver, en tout cas c'est ça prend en tout cas de l'ampleur progressivement. Où est-ce qu'on concrètement, si on se projette d'un point de vue mondial, est-ce qu'il y a des régions, donc la Bretagne, je comprends que c'est une des zones qui pourrait en effet développer massivement ce sujet-là, qu'elle soit pour contrer par rapport aux algues vertes, mais aussi parce que l'environnement est fait pour. Est-ce qu'il y a d'autres pays, d'autres régions dans le monde qui pourraient du coup prendre le virage de l'algue, disons?
Bah, à peu près tous ceux qui ont un océan et qui ont une mer brassée, pas trop fermée. Donc c'est pour ça que la Méditerranée c'est pas top. C'est pour ça que les Romains et les Grecs ont pas aimé parce qu'on imagine qu'il y a eu des problèmes dus au fait que c'est une mer fermée, sans brassage, sans marée, polluée, etc. Mais voilà, la Bretagne c'est excellent. Le Canada a un potentiel monstrueux. Le Groenland, l'Indonésie, toute l'Amérique centrale, l'Amérique, le Chili. Le Chili fait un potentiel absolument incroyable. L'Afrique du Sud, on a un projet incroyable aujourd'hui en Namibie, par exemple. Il y a des zones, on pourrait même, parce qu'en fait, normalement, une algue, elle a besoin d'un substrat, donc quelque part où pousser, à part pour deux types d'algues, les sargasses, les connues, qui poussent sans substrat, mais sinon, elles ont besoin d'un substrat et elles ont besoin de nutriments du sol et de la lumière du soleil. Donc, généralement, c'est dans des zones où on n'est pas trop loin, enfin, dans des zones un peu côtières, où il n'y a pas des. Où il n'y a pas des profondeurs trop grandes. Maintenant, il y a des zones où un peu spécifiques qu'on appelle des upwelling, où les nutriments remontent à la surface. C'est le cas au large de la Namibie. Et là où on peut imaginer des fermes d'algues absolument pharaoniques, en fait, avec des câbles dans l'océan qui permettraient de faire pousser des forêts sous-marines absolument incroyables, quoi. Donc non, un peu partout dans l'océan. Enfin, faut pas que ce soit évidemment là où il y a des grands fonds et où il n'y a pas d'upwelling, on pourra pas faire pousser d'algues, mais en côtier, un peu partout, et faut surtout l'intégrer aux aquacultures déjà existantes, sans doute, en premier lieu. Ce qui permettra d'ailleurs d'apporter une source de revenus et d'emplois complémentaires dans ces zones où les ressources de la pêche vont disparaître. On est dans des régions, si on prend Madagascar, si on prend la Corne de l'Afrique, etc., où les populations s'agrègent dans une misère crasse sur les littoraux, mais et ne faisant qu'aggraver les problèmes environnementaux, ne faisant qu'aggraver la surpêche, et dans quelques années, il n'y aura plus rien. Donc aujourd'hui, les algues représentent un énorme capital de développement pour ces populations-là. Et on pourrait parler, ce serait l'Indonésie, ça a été ça en fait, hein. On a vu que le boom de l'algue, il est encore plus présent avec le Covid parce que tout à Bali, tous ceux qui travaillent dans le tourisme, ils sont mis à travailler dans les algues en fait. Et l'exemple le plus frappant et le plus parlant et le plus intéressant, on va dire, c'est Zanzibar où les femmes étaient enfermées chez elles dans des conditions pas très enviables, on va dire, traditionnellement, et où l'arrivée de la culture d'algues et la baisse des pêches, en fait, surtout, a contraint leurs maris à leur demander d'aller travailler à cultiver les algues pendant qu'eux continuaient d'essayer d'aller pêcher. Et aujourd'hui, elles font plus d'argent que leurs maris. 80% des revenus des algues, qui est la troisième ressource de Zanzibar, 80% de ses revenus vont aux femmes, et ces femmes qui étaient enfermées chez elles, vous les voyez aujourd'hui partout dans la rue, et la présidente de Tanzanie, c'est une femme de Zanzibar. Donc, il y a eu un changement avec une autonomisation des femmes et une égalité des genres, une meilleure égalité des genres. Et ça, c'est un vrai sujet aussi, c'est comment ce nouveau secteur, cette nouvelle filière, peut participer à une meilleure inclusion des minorités et à une diminution de la pauvreté.
À la fin de ton livre, tu essaies d'imaginer un monde à 2050 avec qui a pris, disons, conscience du potentiel des algues et qui le développe de manière assez extraordinaire. Par où est-ce qu'il faudrait démarrer pour parce que là on imagine tout le potentiel, on voit en effet il y a quelques complexités etc qu'il faut on imagine faisable, disons, d'aller crocheter. Par où est-ce qu'il faudrait démarrer pour accélérer un peu ce mouvement?
Alors, chacun d'entre nous, il n'y a qu'une chose à faire si on veut accélérer le mouvement, c'est d'aller manger des algues. Très simplement, d'apprendre à les cuisiner, d'apprendre à les acheter. L'industrie agroalimentaire est extrêmement à l'écoute des tendances. Donc, plus il y aura de gens qui auront essayé de cuisiner des algues, plus. En fait, aujourd'hui, la grande ferme d'algues dont je parlais, elle est opérationnelle à 20% parce que de toute façon, ils n'ont pas de marché en France pour acheter plus que ça, en fait, quoi. Il n'y a pas un marché de gens qui consomment des algues qui est énorme. Donc, le premier truc, c'est d'en parler autour de soi, et c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est d'en parler autour de soi, de communiquer. On est tous des acteurs du changement. Chaque fois qu'on mange et on vote un peu pour le monde de demain, eh ben, votons pour les algues. Alors, faisons un effort, essayons de comprendre ce que c'est, essayons d'en donner, essayons d'apprendre à nos enfants. Comment ça peut se faire, etc. Et voilà, il y aura un changement qui va se permettre. Après, tout le reste suivra, je dirais. Si on crée un marché, le reste suivra. Il y aura plus de scientifiques pour les étudier, il y aura des réglementations plus pertinentes, plus d'investissements des États, plus de recherches pour aussi mieux décomposer les algues en sous-éléments. Il y aura plus de facilité à avoir des permis pour cultiver les algues. Tout le reste va suivre, mais comme toujours, en fait, hein, la base, elle a quand même un pouvoir de décision qui est là. On vote, et ben votons algues. Voilà, c'est chacun d'entre nous, c'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on doit faire, je pense.
Vincent, je te propose de passer aux questions de fin. Bon là, t'as parlé un peu d'action avant. Peut-être que tu me trouveras une autre action à mettre en place aussi. D'abord, je te propose de commencer par la première question. Est-ce que t'as un contenu à nous partager qui t'a marqué?
Un contenu qui m'a marqué. Alors moi, je travaille à une BD sur les algues actuellement avec un dessinateur qui s'appelle Étienne Lécroix et qui a fait un livre une BD qui s'appelle Urgence climatique, qui est exceptionnelle et que je recommande à tout le monde. Il l'a fait avec un très grand scientifique et elle est vraiment très très chouette. Alors elle résume très bien. Elle parle un tout petit peu d'algues, mais elle résume très très bien le système dans lequel on est. Et voilà, je trouvais que c'était une BD assez brillante, Urgence climatique d'Étienne Lécroix.
Aux éditions Glénat, si je me trompe pas.
Bien. et si vous êtes un autre contenu à vous proposer de façon plus personnelle, parce que à mes heures perdues, je suis rocker aussi, je viens de sortir un album, un deuxième album, donc c'est Arcy, A-R-C-Y, l'album s'appelle Passage au pluriel, donc sur Deezer, sur Spotify, tout ça, allez écouter, c'est le deuxième album, donc allez écouter Arcy.
Trop bien, bah je mettrai ça. Comme les actes, t'as 12 000 façons de
devenir, ouais.
Exactement. Est-ce que t'as également une action pour agir dès demain dans le bon sens?
Bah, je l'ai dit, hein, manger des algues, parlez-en autour de vous. De façon plus générale, je pense qu'il faut arrêter avec les drames et les peurs. En fait, moi, ce combat sur les algues, c'est pas, j'ai rien à gagner. J'ai 3 enfants, j'en ai assez de leur parler de drames et de peurs et du monde qui va mourir et du monde qui va mal et où il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Les algues sont une. Il y a les champignons. Il y a des solutions pas forcément technologiques. Hein. Le plancton, c'est un truc incroyable aussi. Enfin, il y a plein de choses encore naturelles à explorer, du biomimétisme sans fin. Donc, moi, je veux dire, si je joue au tennis, hein, si je joue au tennis, que je rentre sur le terrain en pensant que je vais perdre, je gagne jamais, ça c'est sûr. Parfois, quand je pense que je vais gagner, parfois je gagne, parfois je perds, mais parfois je gagne. Et c'est pareil, là, on a une chance de gagner, mais il va falloir y croire, il va falloir arrêter de se dire que tout est perdu et de convaincre la génération d'après que tout est perdu.
Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast?
Alors, je vous recommanderais bien Françoise Gaël, qui est une océanographe extrêmement brillante, qui est une dame d'un certain âge aujourd'hui, mais qui est toujours aussi claire et vibrante de justesse dans ce qu'elle dit et dans sa connaissance absolument encyclopédique de l'océan en général, bien au-delà des algues.
Nickel, très bien, bah, elle sera contactée. Merci beaucoup une nouvelle fois, Vincent, pour ton temps. Je vous recommande encore une nouvelle fois La Révolution des algues. Je vous mettrai bien entendu le lien dans la description. Un livre où on va beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire pendant 1 heure, bien entendu, puisque c'est un livre de plus de 300 pages. Je vous recommande vraiment, il est facile à lire et agréable pour voir en profondeur toutes les histoires qui existent sur les algues et ce qu'on peut en faire. En tout cas, une nouvelle fois, merci Vincent pour ton temps
Merci beaucoup.
Et à très vite.
Et manger des algues.
Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque-là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite.